Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 648 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, la semaine 6. Et aujourd'hui, je retrouve Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut Raoul, salut tout le monde. Ça va Raoul ?
Ben écoute, ouais, je suis trop content de refaire un podcast avec toi. J'ai l'impression que ça fait plus d'un an.
C'est vrai, je pense.
Ben voilà, donc merci d'être avec moi aujourd'hui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Raphaël, notre débat du jour qui va être tourné autour des Vikings du Minnesota qui sont dans une spirale qui a plus l'air de vouloir s'arrêter. On va parler de la belle affiche entre les Bengals et les Seahawks, puis on fera tous les pronos et les meilleurs codes de la semaine. Voilà le programme, je le rappelle un peu pour toi Raphaël aussi, parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette émission de jeudi.
C'est... Tout à fait, tu fais bien.
On est un peu la table au coin de l'auberge, là où les gens parlent pas trop fort et puis ne veulent pas faire trop de bruit, mais on est là, tu vas voir, on est bien. Est-ce que tu es prêt Raphaël ?
Au taquet.
Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On l'a dit, on va commencer par parler des Vikings. Est-ce qu'on est en fin de cycle pour cette équipe du Minnesota ? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de fin de cycle ? Ça a l'air un peu abrupt dit comme ça. Petit point de contexte d'abord. Donc Minnesota aujourd'hui est en une victoire et quatre défaites. Ils sont derniers de la division NFC Nord avec les Bears. Et en fait j'ai regardé un peu là depuis 8 ans. Ils ont gagné 3 fois et ils ont été 3 fois deuxième à chaque fois derrière les Packers. Maintenant que Rogers est parti, tu pourrais te dire qu'on les attend en favoris. Sauf que les Lions sont là, finalement les Packers aussi. Et reste les Bears. Et moi Raphaël, je voudrais commencer par te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui Minnesota est à sa place en dernier de la NFC Nord?
Je ne crois pas. Je pense que c'est une équipe qui vaut mieux que son classement actuel et qui est un peu plus forte qu'il n'y paraît. Ils ont quand même une attaque qui reste dans certain top 10, on va dire, de la Ligue. Allez, top 11, 12, si on veut un peu élargir. Ils ont une défense qui n'est pas très bonne, mais qui n'est pas non plus cataclysmique. Donc je trouve en fait qu'ils se prennent un peu un retour de bâton de l'an dernier, où l'an dernier ils ont un bilan de 11-5 qui est peut-être trop généreux par rapport à ce qu'ils étaient vraiment sur le terrain, et cette année à l'inverse ils ont un bilan de 1-4 qui est sans doute qui leur rend pas forcément hommage. Alors bien sûr on va toujours dire oui mais les victoires c'est les victoires, les défaites c'est les défaites, ouais. Et voilà, mais je pense qu'ils sont quand même un peu meilleurs que ce bilan ne le laisse penser.
C'est finalement la meilleure équipe à une victoire et quatre défaites de la Ligue. J'adore ouais. Ce genre de truc. J'ai relevé un peu deux types de motifs, les motifs de crainte et les motifs d'espoir. Alors moi, je suis un grand optimiste, donc j'ai plutôt envie de dire qu'on garderait l'espoir à la fin. Ouais. Est-ce qu'on peut lister un peu ça et voir si ça va se confirmer en crainte ou si l'espoir se maintient. Premier motif de crainte, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux quand je regarde cette attaque des Vikings, c'est qu'au bout de 5 matchs, il y a absolument zéro touchdown inscrit au sol. Est-ce que pour toi c'est un motif de crainte?
Alors, c'est un motif de crainte sur la saison, forcément, parce que ça ne va pas. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le matos qu'il faut pour relever la tête à ce niveau-là. Maintenant, sur du long terme, et comme on est quand même sur une question de fin de cycle, je me dis que c'est quand même quelque chose qui peut se réparer assez rapidement. À la prochaine intersaison, à la prochaine draft, tu peux quand même trouver un coureur un peu talentueux qui va venir un peu réveiller cette escouade de coureurs. Et finalement redevenir une équipe pas inintéressante au sol. Il y a quand même une ligne offensive qui est intéressante avec des joueurs qui sont là depuis un moment, qui jouent ensemble. C'est une ligne offensive meilleure que ce que certains pensent à mon sens. Et donc je pense que le sol pour moi c'est pas le motif de crainte le plus important parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent réparer vite. Et c'est pas ce qui me ferait dire qu'ils sont en fin de cycle, tu vois. Enfin, à la limite, ils étaient peut-être presque plus en fin de cycle au sol quand Adrian Peterson est parti que maintenant. Tu vois ce que je veux dire?
C'est sûr. Alors, tu as mentionné un peu la défense qui n'est pas cataclysmique, mais qui, là, on pourrait croire qu'on est en début de cycle, puisque là, maintenant, on a Brian Flores. Et pourtant, on n'a pas encore ressenti l'effet. Alors, est-ce que c'est la fin du cycle précédent qui a du mal à se finir? Est-ce que finalement, cette défense au global arrive en bout de course? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, il y a un peu de ça. Je trouve effectivement pour la défense, on est dans une sorte d'entre-deux où on a encore beaucoup de vétérans, Harrison Smith, Daniel Hunter, Jordan Hicks. Voilà, on a des vétérans qui ne sont pas forcément tous mauvais, qui sont pas, enfin certains ont encore le niveau, mais le problème c'est qu'on est un peu dans ce entre-deux de. On est sur un fin de cycle avec un corps défensif qui était là sous Mike Zimmer et qui en fait avait été choisi par Mike Zimmer globalement, qui correspondait à ce que Mike Zimmer voulait faire. Et peut-être le problème, c'est je trouve par contre que cette défense n'a peut-être pas encore les nouvelles armes dont Brian Flores aurait besoin ou veut. Alors oui, il y a le rookie Ivan Pace qui au poste de linebacker est en train de faire un joli début de saison. Il y a Bynum au poste de safety, pareil, qui est en train d'émerger comme un safety assez intéressant. Mais voilà, je trouve que finalement, on n'a pas encore beaucoup investi cette défense pour donner les armes à Brian Flores, ou en tout cas, ce qu'on suppose être ce que Brian Flores veut faire. Et c'est là où, moi, ça m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que j'irais pas forcément qu'en défense, ils sont en fin de cycle, mais ils ne sont pas non plus dans un nouveau cycle, ils sont dans cette espèce d'entre-deux, ils n'ont pas l'air de savoir vers où ils veulent aller et c'est peut-être là où j'ai un peu plus d'inquiétude pour la suite, quoi.
C'est que j'ai trouvé une stat, alors qui est partagée entre l'attaque et la défense, mais qui, je trouve, pèse plus en défaveur des défenseurs. C'est qu'aujourd'hui, ils ont un ratio de turnover qui est de moins 9. Donc, ils ont perdu 9 ballons de plus qu'ils n'ont gagné, entre guillemets. C'est le pire de la ligue aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est déjà un premier axe de travail qu'eux, ils pourraient mettre pour essayer de donner une nouvelle direction à cette défense?
Ouais, ça peut être effectivement un premier axe de travail, hein, on va dire ça comme ça. Après, la question des ballons récupérés et des ballons perdus, parce que c'est l'autre problème en attaque, hein, c'est les ballons perdus, c'est oui. Les premiers de la ligue dans ce domaine-là. On peut voir, pour moi, alors là, je vais encore une fois être peut-être du coup optimiste, mais pour moi, c'est peut-être aussi un des trucs qui me fait dire que leur bilan est peut-être aussi un peu dû à de la malchance. Dans le sens où cette année, ils sont numéro 1 en perte de ballon. J'ai regardé en 2022, ils n'étaient que 11e. Et si tu remontes même, en 2021, ils n'étaient que 13e. Enfin, tu vois, donc c'est un truc assez fluctuant. Et pareil, sur les ballons récupérés, cette année, ils sont avant-dernier, mais l'année d'avant, ils sont dans le top 10. Enfin, tu as l'impression qu'il y a un peu de chance et de malchance là-dedans. Et que du coup, c'est peut-être un argument pour dire, OK, ce n'est pas vraiment fin de cycle. Là, il n'y a rien qui fonctionne actuellement parce qu'on manque un peu d'opportunités, on manque de chance, on manque de réalisme. Mais c'est peut-être une table qu'on peut retourner, j'ai envie de dire, et qu'on peut repartir du bon côté l'an prochain. Donc, moi, j'aurais presque envie de te dire que cette perte de balle, c'est un axe de travail forcément. Mais c'est peut-être aussi un argument de plus pour dire, OK, ce n'est pas totalement une fin de cycle non plus, quoi.
Bon, il y avait un dernier truc qui est un motif de crainte immédiat, qui est un peu moins dans la fin de cycle, c'est que là, ils viennent de perdre Justin Jefferson. On va parler de l'attaque dans les espoirs, mais il y a quand même un truc qui l'a fait prendre conscience que cette équipe des Vikings, elle va peut-être avoir un petit passage du désert. Et tu vas me dire, mais ils ont déjà perdu 4 matchs sur 5. C'est quoi en dessous du désert? C'est le désert de nuit, genre. Et là, moi, je suis un peu inquiet avec cette blessure-là quand même, parce qu'il a pesé beaucoup dans un des gros points forts de Minnesota. S'ils perdent ça aujourd'hui, alors pas pour la saison pour l'instant, il est juste sur la liste des blessés, donc il en a pour 4 semaines minimum, mais les premiers retours ne sont pas hyper positifs au moment où on enregistre ce podcast. Voilà. Est-ce que toi aussi, c'est un motif de crainte là-dessus?
Ouais, c'est un motif de crainte pour cette attaque. Tu dis pas la saison, mais moi, j'ai envie de te dire, ça dépend peut-être aussi de comment ça se passe. Parce que
c'est vrai.
On sait jamais. Si Minnesota, dans 4 semaines, est à une victoire, 8 défaites, est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre Justin Jefferson sur le terrain? De précipiter un retour, tu vois, pour faire quoi? Pour j'ai envie de te dire, pour faire quoi?
Donc, bah, ouais.
Non, mais il y a un moment, t'es réaliste, et si t'es à 1-8, alors bien sûr, personne ne veut finir la saison avec qu'une seule victoire, et même Justin Jefferson, des fois, c'est bien aussi de retrouver un peu de rythme, mais ce que je veux dire, c'est voilà, il pourrait aussi manquer un peu plus de matchs pour prendre son temps, parce que la saison est bazardée.
Ouais.
Donc, après, oui, sur l'attaque, ça me fait peur, mais. Moi, j'ai presque envie de te dire qu'en fait, pour moi, la vraie question autour de l'attaque et du cycle, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec Kirk Cousins. En fait,
oui.
La question du cycle des Vikings, pour moi, en fait, elle est là. Elle est incarnée par Kirk Cousins. Qu'est-ce qu'on fait de lui
Est-ce qu'aujourd'hui, alors, parce qu'aujourd'hui, il est quand même dans une grande saison, on ne va pas mentir. Il a 13 touchdowns lancés, c'est le premier en NFL. Il est deuxième en termes de yards lancés. Alors oui, il a 3 ou 4 interceptions. C'est 4 interceptions. Bon, mais ce n'est pas non plus catastrophique sur 5 matchs. Il a une attaque aérienne qui tourne, TJ Hockenson, qui est le premier tight end en termes de réception avec 30 réceptions. Addison, le rookie, qui a déjà 3 touchdowns reçus, qui est en tête à égalité sur les rookies à cette stat-là. Donc ça marche et il est une valeur, il a une certaine valeur en termes de monnaie d'échange aujourd'hui.
C'est ça, il a une certaine valeur en termes de monnaie d'échange. Comme tu dis, il fait une vraie belle saison, même si on regarde des stats un peu plus poussées contre le Blitz, c'est le meilleur quarterback de la ligue à l'heure actuelle, où il est deuxième en tout cas quand il reçoit de la pression, ce qui n'est pas anodin. Comme tu dis, il a de la valeur et du coup, toute la difficulté, à mon sens, pour Minnesota, c'est de se dire, OK, il a de la valeur. Là, la saison, a priori, elle est quand même déjà bien entamée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en fin de cycle? Et du coup, on essaye de filer Kirk Cousins contre autre chose et prendre le temps de construire autre chose? Ou est-ce qu'on se dit, non, on peut renverser la vapeur? Il faut qu'on garde Kirk Cousins parce qu'un quarterback de ce niveau-là, c'est le meilleur atout. Enfin, c'est un des meilleurs atouts que tu puisses avoir dans ta manche pour gagner. Donc, et là-dessus, moi, j'aurais presque envie de te dire que je serais d'avis. Enfin, moi, j'ai presque envie de dire, on n'est pas en fin de cycle, il faut continuer avec Kirk Cousins. Voilà. Mais je vais entendre ceux qui te disent, c'est un fin de cycle, la défense est mauvaise, il va falloir plus de 1 ou 2 ans pour construire cette défense. Et Kirk Cousins, ça sert à rien de le garder pour ça. Et donc, on l'échange contre de meilleurs atouts. Voilà.
Alors, moi, il y a un truc qui me fait dire que la saison des Vikings n'est pas complètement foutue. C'est que oui, ils sont en 1 victoire, 4 défaites, mais pour l'instant, ils n'ont joué aucun adversaire de division. Oui, les Lions sont en très grande forme. Les Packers ont l'air à peu près de tenir la route. Mais les Bears, OK, ils sortent d'un super match, mais enfin, ce n'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc, dans cette division-là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une place pour eux. Sans Justin Jefferson, forcément, ça va être plus dur. S'il continue sur ce rythme, ça va pas fonctionner, mais ça me paraît pas complètement foutu. Et c'est dans ce sens-là que moi, je suis assez d'accord avec toi. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, garde Kirk Cousins jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, il vaudra pas forcément moins cher cet été. Bon, évidemment, sauf s'il se pète en deux, mais bon.
Est en dernière année de contrat, je crois. Hein, donc, c'est le moment où jamais de.
Ah.
Parce que alors, il a un contrat un peu particulier. Il a des espèces de void years pour éviter mais de mémoire. Il est en dernière année de contrat. Il a été reprolongé là. Il y a pas très longtemps d'une saison, et c'est aussi ça un peu qui pose la question, c'est que les Vikings ont ce qu'il faut pour pouvoir le prolonger. Ils peuvent le prolonger, mais il y a aussi un risque de le perdre à l'intersaison sans rien.
Tu as raison, effectivement. C'est un peu bizarre parce qu'il y a marqué qu'il est, unrestricted free agent, donc agent libre sans restriction en 2024, mais qu'il a quand même des années de contrat où il peut.
Il va peser dans le salary cap des Vikings encore plusieurs saisons s'ils le perdent.
Ouais.
Donc. Il y a quand même l'idée pour Minnesota de peut-être pas.
Autant que s'il le paye, qu'il s'en serve, quoi.
Voilà. Mais alors, du coup, si tu le payes et que tu l'as plus dans l'équipe, l'autre seule solution, c'est d'avoir un quarterback rookie qui prend peu de place dans la marche salariale. Et comme ça te permet d'équilibrer, on va dire, un peu tout ça.
Et... Je suis nul en draft, mais il y a un super rookie qui arrive en quarterback.
Oui, apparemment, nos collègues draft pourraient mieux en parler que nous, mais visiblement, c'est une belle classe de quarterback. Donc, pour moi, c'est ça. C'est, en fait, soit tu penses que c'est une fin de cycle et tu essaies de l'échanger, là, tu l'envoies, je sais pas, les Jets.
Les Jets, ils aimeraient bien. Hein.
Tu vois, ce genre d'équipe là qui peut essayer d'aller la récupérer contre pas. Enfin,
il retourne à Washington.
Ouais, Washington, je sais pas, les Falcons, tout le monde parle de Desmond Ridder, bah tu le remplaces, Cousins avec Kyle Pitts, Bijan Robinson, Drake London, c'est pas inintéressant.
Au moins, t'as du jeu de passe.
Voilà, t'as du jeu de passe. Donc, moi, à titre personnel, en fait, c'est la question, elle est un peu compliquée, c'est je pense que ça peut être un fin de cycle d'un point de... Je pense que ça peut le devenir, parce qu'il y a les éléments qui font que ça peut l'être, un Kirk Cousins en dernière année... Une défense qui n'est pas prête à l'aider à aller au titre. Enfin, clairement, cette défense, elle n'est pas prête à l'aider pour ça. Non. Ni cette année, et à mon avis, pas l'an prochain, parce qu'il faut plus de construction que ça. Mais de l'autre côté, est-ce que vraiment, pour commencer un nouveau cycle, c'est une bonne idée de se débarrasser d'un quarterback de ce niveau? C'est
pas évident. Donc, ok, voilà là, un peu les questions qui doivent trotter dans la tête du front office des Vikings. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en attendant, on va passer, nous, à l'affiche.
Bon, en tout cas, pardon, moi, je dis faut le garder et c'est pas une fin de cycle. Après, je sais pas ce que toi t'en penses, mais
moi je suis assez de ton avis. En fait, fin de cycle ou pas, je pense que de toute façon aujourd'hui, t'as une meilleure chance de réussir ta saison avec lui. Donc autant y aller. Comme dit, je pense pas que la saison soit foutue. Et du coup, eh ben on y va pour l'affiche de la semaine après ce petit jingle. L'affiche de la semaine, celle qu'on a choisie ensemble, Raphaël, que tu m'as d'ailleurs soufflé et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est entre les Seahawks de Seattle et les Bengals de Cincinnati. Ce sera chez les Bengals, pas facile à dire, à 19h dimanche. Raphaël, tu m'as dit que cette affiche te plaisait pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est vrai qu'on a un peu craint pour Cincinnati en début d'année et que... alors. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais tempérer une fois que tu m'auras donné tes arguments. Mais déjà, est-ce que tu es rassuré par les Bengals avant ce premier vrai test qui arrive pour eux face aux Seahawks?
Rassuré, peut-être pas entièrement, mais en tout cas, on a revu la semaine dernière, on en a parlé dans le débrief, des éléments vraiment clés et identitaires, j'ai presque envie de dire, du jeu de Cincinnati. Une explosivité dans le jeu aérien. Un Jamar Chase complètement retrouvé. Donc ça, ce sont des éléments qui te rassurent. Forcément, et j'ai trouvé aussi que la défense était mieux. Alors après, bon, l'adversité peut-être apporte un petit biais sur cette vision défensive.
Ne spoil pas mes arguments.
mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même globalement mieux, même au niveau du coaching. Et c'est en ce sens que ce match, pour moi, c'était une des affiches de la semaine, parce que ça permet de voir, OK, les Bengals ont remis la machine en avant face à une équipe faible la semaine dernière. Est-ce qu'ils sont capables de le confirmer face à une équipe qui est prétendante pour une place en play-off? Et c'est là où ce match est vraiment décisif pour la saison des Bengals, à mon avis. C'est que ça permet de savoir où tu en es à ce niveau-là.
Alors, je suis effectivement d'accord avec toi. Tu mentionnes Jamar Chase, il sort d'un match qui est record d'ailleurs, puisque 15 réceptions, c'est le record de la franchise des Bengals. 192 yards, 3 touchdowns. Joe Burrow aussi fait un super match, c'est son meilleur de l'année. 36 sur 46 à la passe, 317 yards, 3 touchdowns et une interception. Maintenant, voilà, moi, mon gros point noir, c'est quand même qu'en face, c'est Arizona et que ce n'est pas la panacée. Hop, ça, c'est pour vous. Et que... en fait, les Bengals, depuis le début de la saison, on se dit toujours, bon, ce match-là, ils peuvent pas le perdre, ce match-là, ils peuvent pas le perdre. Ils en ont quand même perdu 3. Il y en a 2 qu'ils ont gagné. Et en ce sens-là, leur saison n'est pas complètement foutue non plus. D'ailleurs, si tu veux une petite stat marrante, s'ils font les playoffs cette année, ce sera la première équipe de l'histoire de la NFL à être en 0-2 et à faire les playoffs 2 années de suite. Ça n'est jamais arrivé. Ils l'ont fait l'an dernier. Donc, si cette année, ils y arrivent aussi, petit record. Maintenant, et c'est pour ça que cette affiche, elle est intéressante, c'est que moi, je trouve que c'est un super test pour les Bengals parce que après avoir affronté les Browns, les Ravens, bon, ça va, les Rams, les Titans et les Cardinals, là, Seattle, c'est quand même une équipe qui est censée être un peu au-dessus du panier. Mais de l'autre côté, je trouve que même pour Seattle, bah, c'est un premier vrai test aussi. Et là-dessus, Je sais pas ce que toi t'en penses, mais cette équipe de Seattle, elle s'en sort bien. Mais est-ce que là, ils ont ce qu'il faut pour passer l'obstacle Bengals?
C'est tout, tout l'enjeu. Alors, j'ai envie de te dire que je pense qu'offensivement, ils ont suffisamment d'armes pour poser vraiment des soucis à cette défense des Bengals qui n'est pas au mieux pour le moment, qui a encore un peu du mal à se relancer. Et je pense que là, entre leur trio de receveurs qu'ils ont, Tyler Lockett, DK Metcalf, le rookie Njigba, il y a des armes, il y a un jeu au sol pas inintéressant avec ce duo Charbonnet-Walker. Donc je pense qu'ils ont la capacité à aller marquer des points. Après, sur ce début de saison, ce qui ne me rassure pas du côté de Seattle, c'est leur défense aérienne. Alors, il y a deux jeunes cornerbacks assez intéressants, Witherspoon et Rick Woolen. Mais le problème, c'est que je trouve que le pass rush, pour le moment, ne les aide pas assez à ce niveau-là et qu'en couverture, ils se retrouvent assez vite exposés. Et tu vois, quand je vois qu'ils se prennent 360 yards dans les airs par Andy Dalton, 330 en première semaine par les Rams, je me dis, ça fait beaucoup et on a vu que cette équipe des Bengals, elle est en train de revenir. Donc, je crois un peu que le match va se jouer quand même attaque des Bengals contre défense de Seattle. Est-ce que Seattle arrive à faire mieux que d'habitude ou pas? Et alors, l'avantage, c'est que Seattle sort d'une semaine de repos, donc ils arrivent quand même un peu plus frais. Quand on voit la NFL en ce moment, le carnage que c'est sur les blessures, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas mal d'avoir quand même quelques jours de repos.
C'est sûr.
Donc voilà, moi je trouve que Seattle a les armes offensives pour embêter les Bengals. Maintenant, est-ce que défensivement, à l'heure actuelle, ils sont en mesure de le faire? J'avoue que là, je suis pas convaincu encore, quoi.
Et tu vois, tu dis qu'ils ont les armes offensives. Moi, je suis un tout petit peu, alors déçu non, mais je trouve que Geno Smith aujourd'hui est un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait vu de lui l'an dernier. Aujourd'hui, pour info, il a 84 sur 123 à la passe. Il a 5 touchdowns et une interception. Bon, et notamment avec les armes qu'il a à sa disposition, je pensais que Seattle pouvait être un peu plus productif en termes d'attaque aérienne. Il est bien suppléé par le sol, donc ça marche.
C'est ça. Si je peux me permettre, tu vois, je trouve qu'il est bien suppléé par le sol. Si tu regardes là, les Seahawks, ils sont quand même à 27,8 points par match. Ça les met 6e de la ligue.
Ouais.
Je trouve que justement, là, offensivement, ils arrivent à trouver un petit équilibre parce que l'an dernier, c'était fou Geno Smith. On fait que passer et on verra ce qui se passe. On va dire ça comme ça. Et là, ils arrivent quand même à trouver plus de solutions avec Kenneth Walker. Donc, moi, l'attaque là-dessus, à la limite, je trouve ça pas plus mal de peut-être un peu moins confier à Geno Smith et équilibrer un peu plus. Donc, j'aurais moins de. Je serais un peu moins. Un peu moins, voilà, un peu moins gêné que toi, mais encore une fois, pour moi, c'est cette défense-là qui m'interroge. Ça manque de... Alors, ils sortent d'une très grosse prestation avant leur semaine de repos, mais c'est pareil, c'était contre les Giants, l'attaque des Giants, on a vu que... Oui. Voilà.
Ils ont égalé le record de sacs en une semaine, hein, puisqu'ils ont mis 11 sacs à Daniel Jones, et que c'était la première équipe depuis 2018 à le faire, je crois. Ils ont égalé le record de la franchise de Seattle, en l'occurrence.
Ouais, bah, ça...
une semaine sympathique pour les pass rushers. Moi, il y a un truc qui est quand même à noter du côté de Seattle. Une seule perte de balle, une interception pour Geno Smith, on l'a dit. Sinon, à part ça, c'est zéro. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand tu joues à un match de NFL. Moi, je trouve que cette équipe de Seattle, tu l'as dit, elle est bien équilibrée. Oui, le Geno Smith, bon, voilà, moi j'attendais plus, mais c'est pas si grave. Aujourd'hui, je suis peut-être plus rassuré par leur dynamique et un peu ce qu'ils ont montré que les Bengals depuis le début de saison. Où oui, il y a un bon match là récemment, mais en fait, bon, là sur la dynamique globale, j'ai plus tendance à aller en faveur de Seattle, et c'est pour ça que moi sur ce match-là, je vais les pronostiquer. Qu'est-ce que toi tu choisis?
Écoute, moi je pense que je vais partir aussi sur Seattle. Comme tu dis, j'aime bien la dynamique côté Seattle et je pense qu'ils sont capables dans un match à beaucoup de points de surprendre Cincinnati. Encore une fois, hein, je suis pas non plus surpris si les Bengals se l'emportent et qu'ils confirment leur renaissance, on va dire ça comme ça. Mais là, pour le moment, j'ai encore un petit doute. Et si, je me permets, mais pour les Bengals, je le trouve d'autant plus clé sur ce match. c'est que si jamais tu viens à perdre contre Seattle, la semaine d'après, c'est les 49ers et la suivante, les Bills.
Oui.
Y a quand même un monde où tu prends trois défaites de suite, là, et tu te retrouves à deux victoires, six défaites rapidement, quoi. Donc, ouais. Attention.
C'est ce que ça allait être ma dernière question. Je t'ai parlé tout à l'heure du fait d'être la seule équipe de l'histoire à faire les playoffs de saison de suite en commençant en 0-2. Est-ce que toi, tu y crois ? Spoiler, moi non.
Écoute, je commence à être très inquiet. Autant en début de saison, j'y croyais, enfin, j'avais zéro doute. Autant là, vu la tournure des choses et le calendrier qui arrive, je trouve qu'ils peuvent prendre beaucoup de retard. Peut-être l'avantage, c'est qu'ils ont l'air d'être dans une division où ça se tire des balles dans le pied aussi devant et qu'ils pourraient peut-être accrocher le titre de division de manière très serrée et donc aller en play-off.
Ouais, on est d'accord, c'est à peu près le seul scénario. Et on finira par la preuve que la NFL a les stats les plus tordues de tous les sports du monde. Puisque figure-toi, Raphaël, que sur les 20 derniers matchs joués par Seattle sur la zone de fuseau horaire est des États-Unis, ils sont à 16 victoires et 4 défaites. Voilà, c'est vraiment le genre de stats qu'on adore. Mais en tout cas, tout va dans le sens de Seattle du côté des stats. On verra ce que ça donnera pour le match. Ce sera dimanche à 19h. Et puis, ben, du coup, on va en profiter pour aller faire le point sur tous les pronos. C'est parti.
It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night. And it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. And we're going to work on three. One, two, three. Work.
Et avant de faire le point sur les pronos, on fait le point sur les points, puisque chaque semaine, vous le savez, les membres de la rédaction se tirent à boulet rouge sur les pronos de la semaine. Et une fois de plus, votre serviteur ici présent a réalisé le meilleur score. Alors, c'était pas une semaine très glorieuse pour tout le monde, mais je fais un score de 8. Tout le monde, sauf Lucas, est à 7. Et Lucas, en l'occurrence, est à 6. Attention à l'excès de confiance du leader, puisque Lucas est toujours premier malgré cette petite chute à 53 points. Alain est deuxième à 49. Oui, c'est ça, 49. Et Raphaël, figure-toi que nous sommes troisième ex aequo à 48. Bravo, monsieur. Bravo. Derrière, Grégory est cinquième avec 46 et Victor ferme la marche avec 45. Évidemment, rien n'est joué. Lucas, on arrive. Prends garde à toi. On va se lancer dans la série de tous les matchs et on commence avec celui que vous écouterez peut-être ce soir ou qui s'est déroulé hier si vous écoutez ce podcast vendredi, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, ce sont les Chiefs de Kansas City en 4 victoires et une défaite qui reçoivent les Broncos de Denver en une victoire et 4 défaites de, on va dire, de dynamique assez diamétralement opposée pour ces deux équipes-là. Bon, on ne va pas entretenir trop de suspense, quand bien même dans les semaines dernières, on avait tendance à expédier des affiches qui avaient l'air évidentes et que finalement, ça s'est pas passé. Mm-hmm. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui vont en faveur de Denver, de Kansas City sur ce match, Raphaël.
Oui, beaucoup de choses. On a une équipe de Kansas City qui est peut-être pas actuellement au top offensivement, ou en tout cas comme on pouvait l'espérer pour eux, mais globalement, ça marque des points quand même. Ils sont à 4 victoires, ils ont contre une équipe, tu l'as dit, qui est en difficulté, notamment en défense. Et la clé du match, quand tu as une défense aussi mauvaise qui affronte Patrick Mahomes, tu as du mal à aller faire autre chose que les Chiefs, en fait. Donc, parce que même si l'attaque de Denver n'est pas si terrible que ça, tu vois mal comment les Chiefs sont stoppés. Donc, moi, je vais avec Kansas City et ça part un peu expéditif, mais je ne vois pas trop là où il y a débat.
On est assez d'accord. Travis Kelce est toujours incertain pour le match, il s'est entraîné de manière limitée mardi, touché à la cheville. Bon, avec ou sans lui, de toute façon, il y a largement de quoi faire pour cette équipe de Denver. Le dimanche à 15h30, puisqu'on continue notre série des matchs à Londres, et cette fois-ci, on a un Tennessee Titans qui sont à domicile, entre guillemets, à 2 victoires et 3 défaites, et qui reçoivent, encore une fois, entre guillemets, les Ravens à 3 victoires et 2 défaites. C'est une affiche qui est plutôt sympa. Alors, j'allais dire presque équilibré, ça a l'air un peu sévère pour les Ravens, mais on a du mal à cerner cette équipe-là, quoi.
Moi, je trouve qu'on a même du mal à cerner les deux équipes. Hein. C'est ça. On risque d'avoir un match très physique. Pour le coup, là, on a deux équipes qui défendent dur et qui utilisent principalement et d'abord le sol. Donc, on va vraiment avoir du football old school, on va dire. Mais C'est vrai que c'est deux équipes dures à analyser parce que quand tu regardes les victoires des Titans, c'est contre les Chargers et les Bengals. Les défaites, c'est contre les Browns, les Colts et les Saints. Donc, les matchs où tu les donnes pas favoris, ils le remportent. Ouais. Les matchs où ils sont favoris, ils ne les remportent pas. Ils perdent jamais de beaucoup, sauf le match, contre les Browns. Compliqué. De mémoire, c'est peut-être même les deux meilleures défenses au sol, en plus, qui s'affrontent.
Il n'y a pas les Browns qui sont aussi dans la...
Si, il y a peut-être les Browns, ouais, mais attends, je vais parlons de... C'est voilà, quelque chose qui se fait pas.
La radio tombe en PLS.
Ouais, j'aurais dû vérifier ça avant. Nous sommes des professionnels. Bon, les Tennessee est passé 8e, mais à cause du match la semaine dernière, contre les Colts.
Et Baltimore est 6e.
Ouais, sinon, ils étaient tous les deux mieux classés, et c'est les matchs de cette semaine qui les ont un peu fait tomber. Mais bon, globalement, on a deux bonnes défenses, dont la qualité principale, le jeu contre la course, c'est finalement le point fort de l'autre attaque. Donc, on risque quand même d'avoir un match assez fermé à ce niveau-là. Et qui, du coup, moi, je trouve, est vraiment pas évident. Je vais aller sur Baltimore quand même, parce que je trouve que Lamar Jackson est bon. La semaine dernière, son équipe perd, mais c'est pas de sa faute. C'est les 7 ou 8 drops de ses receveurs qui mettent complètement l'équipe dans la panade. Et donc, je vais aller, deux équipes avec des fois un profil un peu similaire, je vais aller sur celle qui a le meilleur quarterback, et c'est Lamar Jackson.
Je vais aller dans ton sens, je vais prendre les Ravens aussi, et je vais appuyer même la stat que tu donnais sur la défense. Les défenses sont même parmi les meilleures en red zone, puisque les Ravens sont la meilleure défense en red zone. Ils prennent que 3 touchdowns sur 12 possessions adverses, donc un quart. Et les Titans sont la 4e défense en red zone aussi. Donc là aussi, pour les deux équipes, le vrai enjeu va être de réussir à conclure les drives, parce que ça peut faire la différence sur ce match-là. On enchaîne avec notre série de matchs à 19h dimanche et on commence avec les Falcons d'Atlanta, 3 victoires et 2 défaites, qui reçoivent les Washington Commanders en 2 victoires et 3 défaites. À chaque fois, tu sais, j'essaie d'arriver avec un peu de hype et de me dire waouh, et puis en fait, quand je donne le nom des deux équipes, bon, forcément, c'est un peu moins glamour. Maintenant, il y a des choses à dire. On a parlé un peu involontairement de Samuel et Desmond Ridder tout à l'heure en mentionnant les quarterbacks qui seraient peut-être remplacés par Kirk Cousins si les équipes avaient des velléités. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Aujourd'hui, les Falcons ont un meilleur bilan comptable que les Commanders, et sur ce match-là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des arguments un peu plus convaincants, quand bien même ce n'est pas des forces faramineuses, mais bon, je trouve qu'ils sont un peu plus favoris sur ce match-là.
Ouais, je trouve aussi qu'ils sont peut-être un peu plus favoris pour deux raisons. Moi, j'aurais envie de te dire, il y a le côté, eux, ils ont une attaque avec une identité affirmée. Alors oui, ce n'est pas l'attaque la plus spectaculaire et la plus emballante de la Ligue, même si Desmond Ridder sort d'un match à plus de 300 yards, alors peut-être, mais comme dirait l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il court au sol, il court bien, clairement du côté des Falcons. Alors qu'à l'opposé, je trouve que l'attaque des Redskins, attention, des Commanders, marque à peu près 21 points par match, mais... C'est mieux que les Falcons, si je dis pas de bêtises, mais on ne sait pas trop d'un match à l'autre. C'est un peu fluctuant quand même. Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est la passe? Et surtout, c'est cette défense de Washington qui déçoit.
Eh oui, finalement, Chase Young ne peut pas tout faire.
Ouais, bah voilà, entre autres. En points par match, ils sont dans les derniers de la ligue, les Commanders. Et je pense que du coup, il y a une vraie opportunité pour Atlanta pour continuer à avancer, à faire avancer le ballon. Et les Commanders, je pense qu'ils vont avoir du mal contre la course. Et ils risquent de perdre le match là-dessus.
Il y a effectivement, ils encaissent 32 points par match en moyenne, les Commanders, donc c'est beaucoup. Moi, je pense surtout aux gens qui vont commenter le match, qui vont devoir pas se gourer entre Brian Robinson et Bijan Robinson. Bon, ça entre les deux coureurs de chaque équipe, ça va être un petit challenge. Mais effectivement, tu l'as dit, moi, je suis plus convaincu par l'identité claire et assumée des Falcons. Ça fera pas une saison exceptionnelle, mais ça devrait suffire pour remporter ce match. Les Bears, une victoire et 4 défaites, reçoivent les Vikings, une victoire et 4 défaites. On a longuement parlé des Vikings en début d'émission. C'est le moment de se rassurer, de prendre une victoire sur la route. Une première dans la division, pour un premier match de division aussi pour eux. C'est obligé, enfin, c'est très très important qu'ils gagnent ce match, Raphaël.
Oui, bah forcément, c'est important par rapport à ce qu'on se disait en début d'émission. ils affrontent une équipe des Bears alors qu'effectivement on sort d'une belle prestation offensive, c'est du meilleur match de la saison. Maintenant je pense que c'est l'occasion de remettre les Bears la tête sous l'eau. Voilà, alors là où le match me semble un peu incertain, c'est qu'en fait Chicago a tellement été différent la semaine dernière de ce qu'ils ont fait tout le début de saison que tu ne sais pas est-ce que c'est là une nouvelle dynamique ou est-ce que ils sont tombés face à une faible défense de Washington et ils vont à nouveau retomber dans leur travers offensif face aux Vikings qui défendent mieux et qui attaquent mieux.
Ah bah oui.
Que Washington. Donc moi je vais aller sur Minnesota, mais attention au match piège, surtout quand t'es l'équipe qui perd le plus de ballons dans la ligue. L'absence de Justin Jefferson, bon, il y a quand même des arguments aussi pour dire que Chicago peut surprendre les Vikings quand même.
C'est peut-être le meilleur moment pour eux pour prendre les Vikings. La première semaine sans Justin Jefferson, un peu d'adaptation, ils ont du mal à progresser aussi, autant que d'habitude.
Ils ont 2-3 jours de repos de plus, ce qui est pas anodin.
C'est vrai, ils ont pu préparer peut-être plus efficacement aussi. Maintenant, moi, je crois quand même que Minnesota a plus d'arguments, même sans Jefferson. J'ai pas besoin de plus. Je suis sûr qu'ils ont plus d'arguments. Donc, je vais choisir Minnesota. Cleveland Browns, non, j'en ai raté un. Cincinnati Bengals, 2 victoires, 3 défaites. Seattle Seahawks, 3 victoires et 1 défaite. On en a déjà parlé dans notre affiche de la semaine. Et je crois qu'on prend tous les deux les Seahawks, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Cleveland Browns, 2 victoires, 2 défaites. San Francisco 49ers, 5 victoires, 0 défaite. Alors, gros avantage en faveur des Browns, puisqu'ils sortent d'une semaine de repos. Et c'est bien la seule chose. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même une super défense du côté de Cleveland. Maintenant, Raphaël, il y a même pas de qualificatif pour l'attaque de San Francisco et surtout la défense. Bon, voilà.
Lance-toi. Je l'avais dit dans une autre émission, mais j'attendais de voir quand même cette défense de Cleveland face à des gros clients. Parce que bon, quand je regarde leur calendrier en semaine 1, ils rencontrent les Bengals, on a vu Joe Burrow blessé, tout ça. Derrière, c'est l'attaque des Steelers et des Titans. Et au final, la première attaque un peu costaud qu'ils rencontrent, c'est Baltimore qui leur en met 28. Donc je m'interroge un peu et quand tu vois le rouleau compresseur qu'est San Francisco à l'heure actuelle, tu bloques Christian McCaffrey, bah tu vas te prendre Deebo Samuel, Brandon Ayuk ou George Kittle sur la tête. Tout simplement, même si Cleveland a des armes et des atouts, pour moi les 49ers à l'heure actuelle sont tellement au-dessus que
c'est ça.
San Francisco quoi.
Tu peux mettre qui ? En fait, on peut faire cette preview avec n'importe quelle équipe en face de San Francisco. Je pense qu'on aura toujours les mêmes arguments de dire oui, mais en fait, San Francisco est juste plus fort aujourd'hui sur le papier. Il y a un truc qui est très impressionnant. Ils sont effectivement invaincus. Ils sont surtout, aujourd'hui, ils n'ont encaissé aucun point sur leur perte de balle. C'est-à-dire que quand bien même ils perdent le ballon derrière, sur le drive qui suit, ils ne vont pas encaisser de points. Donc ça, c'est hyper fort. Il y a une seule autre équipe aujourd'hui qui est dans le même cas en NFL. Et c'est une seule autre équipe qui est la seule qui est invaincue puisque c'est Philadelphie. Voilà, c'est quand même une belle stat en faveur de San Francisco.
Ouais, vas-y. Ce qui correspond aussi à la stat moi, que je m'étais notée, ils sont à 36 points marqués en moyenne par match, ils en encaissent 13. Voilà, bon, différentiel de 23 points en moyenne.
Voilà, il faut que tu mettes 23 points de plus que... Bravo. Bon courage pour ça. Le match d'après, il est sympa. C'est Houston Texans à 2 victoires et 3 défaites face aux Saints de New Orleans à 3 victoires et 2 défaites. Les Texans dont on est plutôt satisfait en fait depuis le début de la saison. Je vous entends dans les podcasts débrief à chaque fois. Il faut quand même louer le sérieux, en tout cas sur le papier de cette équipe et les efforts qu'ils consentent malgré un effectif qui est quand même pas non plus des plus fournis. En face, cette équipe des Saints, elle est un peu en demi-teinte, même si Derek Carr n'a pas joué tous les matchs de mémoire, il en manque un, je crois.
Ouais,
mais il a quand même du super matos à disposition. Chris Olave, Michael Thomas en tête, Alvin Kamara, évidemment. Cette équipe des Saints, elle a toujours un peu cette aura avec toutes les stars qui l'entourent, quand bien même il n'y a plus notre ami. J'ai oublié évidemment.
Drew Brees,
voilà, vache.
Oui,
il est parti. Ouais, non, mais il est déjà tellement parti depuis longtemps que j'ai oublié son nom.
Et donc, en fait, ce match, je le trouve plutôt incertain et assez sympa sur le papier. Qu'est-ce que toi, tu vois en faveur de Houston? Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Texans?
Une attaque qui marche mieux que celle des Saints à l'heure actuelle. On a un CJ Stroud, leur quarterback, qui est plutôt précis, qui n'a toujours pas lancé d'interception. Ce qui n'est pas anodin pour un rookie, quand même.
186 passes. C'est quand même très fort.
Et donc, je trouve qu'ils ont une attaque qui, pour le moment, est paradoxalement, parce qu'elle est plus jeune que celle des Saints, ils ont une attaque qui est mieux synchronisée, mieux rodée, mieux préparée à l'heure actuelle. Après, la petite difficulté là, sur ce match, c'est qu'ils affrontent quand même la défense des Saints, qui est une des très, très bonnes défenses de cette ligue. Top 5, à mon sens, à l'heure actuelle, dans la ligue. Donc voilà, ça va être quand même un vrai test pour le rookie, mais en tout cas, si jamais il venait à gagner le match, je pense que ça peut être à ce niveau-là, parce que, et du coup, c'est un peu en miroir, c'est que l'attaque des Saints, pour le moment, elle est décevante, on s'attendait à mieux, alors je rejoins toute une partie des fans des Saints qui mettent beaucoup sur le coordinateur offensif Pete Carmichael, je crois aussi qu'il est le problème. Mais c'était déjà un peu mieux la semaine dernière. Donc, s'ils arrivent à améliorer cette attaque... Par contre, pour moi, si les Saints arrivent à améliorer leur attaque, ils sont largement favoris de ce match.
Ouais, oui. Je suis assez d'accord avec toi. Et tu parles de la défense des Saints top 5. Elle est même mieux que ça. Elle est top 4 sur les yards encaissés par match depuis le début de la saison. Effectivement, c'est quand même une grosse marche à franchir pour les Texans. Je sais que j'ai cru voir que dans la rédaction, les pronos étaient un peu partagés sur ce match-là. Moi, j'ai choisi les Saints. Je vais tout de suite revérifier. Toi, qu'est-ce que tu choisis, Raphaël?
Eh ben, je vais partir sur les Saints. Je sais même pas si j'avais rempli le prono, mais
non, tu l'avais pas mis encore.
Oui, parce que faut dire, des fois, c'est vrai qu'on attend aussi de voir un peu ce que le leader de la compétition parie pour essayer d'aller lui gratter un point. Faut être
voilà. Honnête. Et puis, comme c'est Lucas Vola et que à l'heure où nous enregistrons ces lignes, il n'a toujours pas rempli son prono. Voilà. C'est sûr qu'on fait comme on peut. Mais en fait, je dis ça aujourd'hui. Il y a juste Grégory qui a choisi les Texans. Mais pourquoi pas, moi je garderai un œil attentif sur cette affiche là en tout cas. Et donc on continue avec les Jacksonville Jaguars, 3 victoires 2 défaites face aux Indianapolis Colts, 3 victoires 2 défaites là aussi. Alors jusqu'à hier c'était une affiche qui était plutôt intéressante et serrée. Malheureusement le quarterback des Colts s'est blessé, Anthony Richardson, j'ai un doute sur son prénom,
c'est ça
Anthony. Donc on va retrouver notre ami Gardner Minshew. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les Colts sur le papier? Est-ce que c'était ça qui faisait leur force selon toi, Raphaël?
Non, honnêtement, je crois pas, et c'est pas faire injure à Anthony Richardson, parce que c'est un rookie et qu'il a 5 matchs et dans le jeu de passe pour le moment, Gardner Minshew sur les séquences qu'on a vues faisait mieux avancer le ballon qu'Anthony Richardson dans les airs. Était plus convaincant en tout cas, ce qui n'est pas non plus étonnant. Il a un peu plus de métier, de bouteille. Donc, je pense qu'offensivement, ce n'est pas si dramatique que ça pour les Colts. Surtout que le jeu au sol arrive quand même à avancer sans Anthony Richardson, parce qu'il y a un Zach Moss qui trouve des brèches grâce à sa très bonne ligne offensive, qui est bien revenu là-dessus. Il y a Jonathan Taylor qui est un peu revenu timidement la semaine dernière, mais qui peut aussi là reprendre du galon au niveau du jeu au sol. Donc, je pense qu'offensivement, cette équipe des Colts est capable de faire une aussi bonne figure que sans Anthony Richardson. Après, en face, y a une équipe qui a fait une belle impression face aux Bills.
Ah, puis en face, il y a une équipe qui sort de 2 matchs consécutifs gagnés à Londres. C'est la première fois que ça arrive. En même temps, il y a peu d'équipes qui jouent. Encore une stat à la NFL. Wouhou ! Première fois qu'une équipe gagne 2 matchs consécutifs à Londres. C'est la première fois que... Ah non, c'est peut-être pas la première fois. Les Jaguars, justement, avaient déjà dû le faire. Mais ils n'avaient pas gagné.
Vu qu'il n'y a que eux qui ont eu l'opportunité de le faire en même temps...
Ils sont à 1-1 en termes de victoires d'affilée à l'extérieur. Bref, effectivement, ils ont battu d'abord les Falcons à Wembley, et puis là, ils viennent de mettre une fessée, c'est un peu sévère. Oui. Mais ils viennent de battre de manière convaincante, on va dire, les Bills, quand bien même le score est de 25-20 sur l'impression finale. Je trouve que les Jaguars ont vraiment rendu une très belle copie. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais candidats à la victoire dans leur division. Et ça passe par battre cette équipe des Colts qui a un sursaut d'orgueil et qui, si eux remportent ce match-là, se mettent aussi plutôt en bonne position. Donc, important, je crois, pour les Jaguars de gagner ce match-là, comme tous les matchs de division. Mais il y a de quoi faire pour le gagner, Raphaël.
Oui, oui, c'est important de le gagner parce que ça te permet de reprendre la tête de division, de calmer un peu tout le monde et de dire le début de saison un peu compliqué est peut-être derrière nous. Après, comme tu dis, moi j'ai eu la chance de les voir à Londres en direct et pour le coup ils m'ont plutôt impressionné, notamment défensivement. J'ai trouvé ça vraiment une prestation défensive très très costaud. Avant le quatrième quart-temps, vraiment, il laisse rien passer quasiment aux Bills. Hein. Les Bills, il y a 14 points dans les 5 dernières minutes du match quasiment. Mais avant ça, c'est une vraie galère pour eux d'avancer. Et je crois que Jacksonville est capable de reproduire cette performance face à l'attaque d'Indianapolis, qui est peut-être un peu moins fournie que celle des Bills quand même. Qui est moins fournie.
C'est sûr.
Donc, moi, je vais aller avec Jacksonville. Je pense qu'ils ont commencé à remettre le train sur les bons rails et ils vont montrer qu'il y a un peu plus de talent dans cette équipe.
On est bien d'accord. Je vais choisir les Jaguars également. Dernier match à 19h, ce sont les Dolphins, 5-4 victoires et une défaite, qui reçoivent les Panthers, 0 victoire et 5 défaites. Bon, là, il n'y a peut-être pas besoin de trop débattre. Les Dolphins sont quand même largement favoris. On va plus voir Devon Achane. Ça, c'est la faute, vous savez quoi, messieurs, dames? Ça, c'est la faute de Victor Roulier. Je n'ai pas peur de balancer mes collègues sous le bus. Qui a dit, je cite, que quand bien même il arrêterait sa saison maintenant, il serait quand même rookie offensif de l'année. Bravo, Victor. En attendant, je pense qu'il a quand même raison et que même si Devon Achane rate plusieurs matchs et qu'il revient, et on lui souhaite et on se le souhaite tous parce qu'il est vraiment super agréable d'avoir joué, il sera quand même rookie offensif de l'année.
Attention à CJ Stroud, quand même.
Ok, alors oui,
si
d'accord.
Si le quarterback des Texans finit avec 5-6 victoires et que 3-4 interceptions lancées dans l'année, tu vas voir que ça va aller.
5-6 victoires.
Bah, tu verras.
T'es dur. Franchement, ils sont à l'équilibre. Je veux bien en parler. Ils sont en dessous. Je trouve que ça a un peu abusé.
On verra. Écoute, débat pour un autre podcast. Mais bon, en tout cas, Miami, même sans David Achane, l'attaque est tellement rodée que, en fait, je vois pas dans quel monde les Panthers arrivent à les suivre au scoring offensif, en fait.
Impossible. Et même en défense, ils arrivent. La défense va jamais matcher leur attaque. Bon, bref. Je ne vous ai pas donné, l'affiche du match sur Sisplay, et c'est pour la simple et bonne raison que je ne sais plus c'est laquelle. Mais je vais regarder ça d'ici la fin du podcast. On enchaîne avec le match de dimanche à 22h05. Ce sont les Las Vegas Raiders face aux New England Patriots. On aime bien voir ces affrontements entre.
Ah, c'est la cousinade là. Là, c'est la cousinade.
Entre l'ancien disciple, et son maître préféré et. En fait, ça me fait trop rire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, je crois que là, je regarde les pronos, tout le monde a pronostiqué les Raiders. Mais en fait, je sais très bien ce qui va se passer. C'est que Josh McDaniels, il va faire n'importe quoi. Et que du coup, c'est les Patriots qui vont gagner ce match-là parce que Bill Belichick est encore dans sa tête. Voilà, j'ai pas besoin de plus d'arguments. D'ailleurs, j'assume totalement de pronostiquer les Patriots qui sont seulement une victoire et 4 défaites et qui sont une équipe qui est très très loin de ses standards habituels. Vous en avez bien parlé dans le podcast d'hier. Mais
j'entends ce que tu dis. Moi aussi, ça m'inquiète un peu ce duel McDaniels-Belichick, même si Belichick, pour nous, on l'a dit hier, tu l'as mentionné dans le podcast, on le pense perdu. Ça m'inquiète un peu. Après, quand même, cette attaque des Patriots ne va nulle part. Elle est vraiment, vraiment en difficulté. Cette défense a quand même perdu coup sur coup Matthew Judon, Christian Gonzalez, ses deux meilleurs défenseurs. Bon, Las Vegas, c'est pas incroyable, mais mine de rien, ça gagne quand même quelques matchs contre les équipes à leur portée. Moi, je vais aller sur les Raiders. Comme toi, je suis pas surpris si Belichick s'en sort sur ce coup-là, mais la dynamique est tellement pas bonne. Ils sortent quand même de deux défaites monstrueuses, hein, franchement.
Ah oui, non, mais ils sont abyssaux. Mais il y a ce truc-là. Et il y a surtout, dès que Belichick gagne un match, ce sera son 300e match gagné de saison régulière de l'histoire de la NFL. Il serait le troisième à réussir à le faire avec Don Shula et George Halas. Et je suis sûr qu'en début de saison, il a coché ce match face aux Raiders en semaine 6 en disant « C'est maintenant que je gagne mon 300e match face à Jimmy et à Josh ». Encore une fois, c'est très irrationnel, hein, mais moi, ça me ferait tellement marrer. 22h25, les matchs d'après, puisque c'est celui qui va opposer les Los Angeles Rams en 2 victoires et 3 défaites aux Arizona Cardinals en 1 victoire et 4 défaites. Bon, c'est pas les équipes les plus, en tout cas qu'on attendait le plus en début de saison, mais finalement, c'est des équipes qui ont des arguments à faire valoir. Les Rams, il y a toujours cet allant offensif qui est quand même pas négligeable. Les Cardinals, il y a eu des petites bribes. Alors, il y a eu une grosse bribe face aux Cowboys, mais après, il y a eu quelques petites choses face aux Bengals, face aux Niners. Il y a eu des choses. Et en fait, finalement, ce match, il est plutôt serré, Raphaël.
Oui, il peut être un peu plus serré qu'on ne le croit. Après, moi, je dis tout de suite, je vais aller sur les Rams parce que je pense que la perte de James Conner pour l'attaque des Cardinals va faire mal. C'était vraiment le moteur offensif de cette équipe. Ils avaient besoin d'installer le jeu au sol pour réussir à trouver quelques failles en jeu aérien derrière. Et là, j'ai peur que ce soit trop juste, donc je vais aller sur les Rams, clairement.
Moi aussi, tu m'as spoilé mon effet d'annonce, mais tant pis. Mais ouais, effectivement. Non, mais Connor, c'est fin de saison ou c'est...
J'ai pas en tête, mais...
Je vais revérifier, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça va être plus compliqué sans leur coureur star. Toujours à 22h25, les Jets de New York en 2 victoires et 3 défaites reçoivent les Eagles de Philadelphie, 5 victoires, 0 défaites, l'autre équipe invaincue de la NFL. Et puis, ben, il y a pas de raison que ça ne continue pas. Hein. A priori, énorme favoritisme en faveur des Eagles.
Oui, bien sûr, je vais jouer Philadelphie. Les Jets ont montré qu'ils ont un jeu au sol qui commence à performer. Ils ont toujours une défense correcte. Mais là, il y a tellement d'armes offensives et défensives du côté de Philadelphie que ça paraît vraiment compliqué. Donc Philadelphie.
On est bien d'accord, c'est liste des blessés hein, pour James Conner, donc sa saison n'est pas encore complètement finie.
Tant et d'ailleurs, les Jets n'ont jamais battu les Eagles.
De leur vie ?
Ouais.
Oh.
Ah bah, ça, bah, ils se rencontrent une fois tous les 4 ans.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, il y a 12 matchs, 0 victoire. Ah, ça, c'est énorme. Bravo, merci Raphaël pour cette belle statistique.
Et je suis pas sûr qu'on ait beaucoup dans la ligue des trucs comme ça.
Des invaincus, ouais, c'est vrai parce que.
Pas sûr.
Non, en plus, pourtant, c'est des équipes qui sont pas si vieilles que ça. Il faudra regarder les Texans s'il n'y a pas des équipes qui sont jamais battues.
Bref. Ouais,
les Lions, de Détroit, 4 victoires et 1 défaite, qui se déplacent sur le terrain des Buccaneers, 3 victoires et 1 défaite. Les Buccaneers qui sortent de bye week, mais les Lions qui sortent d'une nouvelle victoire extrêmement convaincante en attaque. Alors que, bon, du côté de Tampa, c'est mi-fig, mi-raisin. Alors non, 3-1, c'est dur pour eux quand même de dire mi-fig, mi-raisin, mais... Est-ce qu'ils n'ont pas profité aussi d'un début de saison avec un calendrier qui est quand même à leur portée, Vikings, Bears d'abord ? Bon, je trouve qu'en tout cas sur ce match-là, il y a quand même beaucoup plus d'éléments qui vont en faveur de Détroit.
Oui, parce qu'effectivement, le bilan est bon pour Tampa et c'est une équipe qui a des atouts. Enfin, c'est un vrai groupe de vétérans pour le coup, que ce soit en attaque ou en défense, des joueurs d'expérience. Donc, ils vont être dans le match, ils vont chercher des choses. Mais comme tu dis, la Détroit, depuis 2 semaines, fait vraiment des belles prestations offensives. Ça, on l'a vu, et notamment la semaine dernière, sans Amon-Ra St. Brown, tout ça. Mais en plus, défensivement, c'est en train de vraiment progresser. Ils sont de mieux en mieux défensivement. Et donc, je pense que le tout dans le tout sur ce match, ils vont réussir à déborder Tampa Bay et l'emporter.
Ouais, on est assez d'accord. J'essayais de prévoir ce que j'allais bien pouvoir dire sur le match d'après, puisque on arrive sur le match de dimanche à lundi dans la nuit à 2h20 entre les Bills de Buffalo, 3 victoires et 2 défaites, face aux New York Giants à 1 victoire et 4 défaites. Et en fait, moi, Raphaël, je vais te poser une seule question. Combien de sacs pour les Bills sur ce match ? Est-ce qu'on va pas sur un truc un peu fou record là ? Est-ce que
non, alors c'est pourquoi maintenant. Je vais dire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés là dans la défense de Buffalo après le match de dimanche. Donc je pense que et Daniel Jones n'est plus sur, ne sera pas sur le terrain et je pense que l'autre quarterback va se débarrasser un peu plus vite de la balle. Donc je dirais pas, mais après bon, Buffalo a plus d'armes en attaque en défense, les dynamiques sont différentes. Buffalo, enfin.
C'est vrai que perdre coup sur coup Daquan Jones, Matt Milano, c'est quand même un peu casse-pied, pour être tout à fait honnête, du côté des Bills. On a Dawson Knox et Dalton Kincaid qui sont les deux tight ends qui sont eux aujourd'hui questionable. J'ai dit le nom en français tout à l'heure et je l'ai oublié, mais incertain. On va voir. C'est vrai qu'ils se sont plaints un peu là de la pelouse de Tottenham, les Bills. Bon, en tout cas, il y a assez peu de chances que New York s'en sorte sur ce match-là. Et on finit avec notre match du lundi soir dans la nuit de lundi à mardi à 2h15. Les Los Angeles Chargers, 2 victoires et 2 défaites face aux Dallas Cowboys, 3 victoires et 2 défaites. Les Chargers qui sortent d'une semaine de repos et qui pourraient, il se dit que notre ami Eclair pourrait être de retour pour la franchise à l'éclair. C'est quand même une super bonne nouvelle pour les Chargers qui ont quand même largement les arguments offensifs
à opposer à cette belle défense des Cowboys. Moi, alors, ayant une certaine affection pour les Chargers, évidemment, je suis un peu biaisé, mais j'ai envie de croire que y a un truc en faveur de Los Angeles et que sur ce match-là, le coup sur la tête reçu par les Cowboys peut avoir des répercussions encore lundi soir.
Peut-être. C'est aussi le retour de Kellen Moore, qui est le coordinateur offensif actuel des Chargers à Dallas, puisqu'il était coordinateur offensif.
Tout à fait.
Des Cowboys, donc à savoir qui de lui ou de Dan Quinn va plus connaître les faiblesses. Dan Quinn, coordinateur défensif des Cowboys, va plus connaître les faiblesses de l'autre. Ça risque d'être assez intéressant à voir, hein, cet affrontement entre deux anciens coordinateurs de la même équipe. Je pense effectivement que les Chargers sont des armes offensives pour. De toute façon, ils l'ont montré depuis le début de la saison. Marquer des points, c'est pas le problème des Chargers.
Non,
c'est pas le problème. C'est vraiment là-dessus que va se jouer le match, hein, a priori pour eux. Pour eux, le match va se jouer dans leur capacité à défendre et à ralentir l'attaque de Dallas suffisamment pour offrir. Alors, les deux dernières semaines, ils ont réussi non pas à ralentir les attaques jusqu'au bout, mais à provoquer les pertes de balles en fin de match pour changer le cours du match. Pourquoi pas ne le refaire, hein. C'est possible. Dak Prescott a perdu quelques ballons la semaine dernière, 3 interceptions de mémoire. On a vu que ce n'était pas terrible en attaque, donc pourquoi pas. Ça va être serré. Sur le papier, je pense Dallas est favori sur le papier. Plus d'armes. En tout cas, la défense est tellement meilleure que ça fait pencher leur
ouais.
De leur côté. Mais comme toi, je pense que Los Angeles va surprendre.
Ah, merveilleux. Monte avec moi dans le wagon des Chargers. Sauf si Brandon Staley décide encore une fois de faire n'importe quoi. Mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai qu'il y a une semaine de repos et Khalil Mack, la semaine d'avant, a fait quand même réussi à mettre 6 sacs dans un match à un sac du record de l'histoire. Donc bon, c'est plutôt rassurant. On espère qu'il va continuer sur cette bonne dynamique et on verra ce que vont donner. C'est vrai que tu vois, les deux attaques sont très fortes et en fait, comme la défense de Dallas est un peu meilleure, largement meilleure que celle de Los Angeles, ils sont favoris, mais moi, j'ai décidé d'arrêter de voter contre Los Angeles, donc ce seront les Chargers également. Voilà qui termine notre session des pronos de la semaine. Il y a deux équipes au repos, ce sont les Steelers et les Packers. On leur souhaite une bonne semaine et on se retrouve juste après le jingle pour toutes les cotes. Alors Raphaël, les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet, bien sûr, n'hésitez pas à passer par les liens que vous trouverez sur le site pour aller faire tous vos paris sur la Ligue de football nationale. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine, Raphaël ? J'ai les codes sous les yeux. Alors, tu vois, tout à l'heure, on a parlé des Seahawks et des Bengals. Les Seahawks sont à 2,08.
Bah oui, on les a donné vainqueurs tous les deux, donc autant l'assumer, tu vois.
Moi, je trouve aussi, et ce qui est bien sur Unibet, c'est que ça te montre les pourcentages de gens qui ont voté pour l'un et pour l'autre, et tu vois quand même 41% pour un underdog ou un non-favori, c'est quand même pas mal. Si on continue de descendre un petit peu, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Les Patriots sont à 2,15, moi c'est vrai que je les ai donnés gagnants. Maintenant, ça me paraît un peu audacieux. On a dans les favoris qui ont une grosse cote, la plus grosse, j'ai l'impression que c'est les Saints à 1,67.
Pas mal, ouais.
Texan.
C'est pas mal.
Ça, j'aime bien. Et puis après, si on descend, tu vois, les Chargers, ils sont à 1,91 face aux Cowboys. Est-ce que toi, il y a une autre cote qui te plaisait un peu plus ?
Bah, je me dis, alors, elle est pas évidente, hein, mais en vrai, les Titans à 2,34. Sachant que les Titans, depuis sous McVrabel, Mike Vrabel, donc le coach des Titans, les Titans sont en tout cas en saison régulière, ont un bilan positif quand ils sont underdog d'un match. Donc quand ils sont pas favoris d'un match.
Marrant, ça.
Ont un bilan positif.
Ok.
En saison régulière, hein, je parle.
Oui.
Puisqu'en playoff, ils finissent par sortir face à une équipe favorite. Mais voilà. Je trouve ça pas inintéressant à 2,34. Je tente très bien.
C'est une belle cote. Hein.
Surtout qu'on a vu que Baltimore est capable de se tirer des balles dans le pied comme ils l'ont fait face aux Steelers, un match qu'ils doivent remporter. Donc,
C'est un match en plus qui se joue à Londres, donc il n'y a pas vraiment de repère non plus pour ces deux équipes-là. C'est seulement leur deuxième, puisque les Ravens avaient battu Jacksonville en 2017 et que les Titans avaient perdu face aux Chargers en 2018. Je crois que j'ai fait les deux matchs. Voilà, petit instant 36-15 my life, mais en tout cas, voilà.
c'est pas, tu vois, y a pas un avantage aussi clair, et peut-être que dans ce sens-là, effectivement, les Titans peuvent tenter un coup. Ça me va. Écoute, on les rajoute dans notre combiné. Et puis, de toute façon, comme ça, dès les matchs de 19h, on saura déjà si on a gagné ou pas. Donc, les Titans à 2,34 face aux Ravens, les Seahawks à 2,08 face aux Bengals, et les Saints à 1,67 face aux Texans. Et les trois combinés, ça nous fait une cote totale de 8,13. Donc, pour 5 euros de gain, vous avez de mise. C'est mieux. Vous avez 40,64 euros de gains potentiels. C'est pas mal pour un combiné classique, entre guillemets. On est sur une belle cote là, Raphaël. Mmh. Qu'est-ce que tu veux mettre dans notre YOLO? Qu'est-ce qu'on rajoute?
Bon, bah, les Patriots.
Voilà, les Patriots, j'aime bien. De 15, on les met. Le problème, c'est que là, les cotes sont... Alors, il y a des belles cotes, mais elles sont un peu...
Tampa Bay, peut-être, pour la surprise, à 2,14. Ils sont à 3,1, tu vois, c'est pas l'équipe la plus nulle de la Ligue non plus. Enfin...
Ok, ça me va, ça me va. Alors après, si on veut rigoler un peu, on nous a reproché là récemment qu'on jinxait trop les équipes trop fortes, et quand on a dit que les Niners allaient éclater les Browns...
Non.
Bon, ça va, j'essaye. Les Jets à 3,05
c'est Eagles. Non, mais non.
Oh.
Soyons sérieux.
Les Cardinals face aux Rams.
Oh là là.
Bah, on est sur du YOLO, Raphaël.
Ouais, mais... Attends, hein.
Tu préfères les Cardinals ou les Panthers face aux Dolphins?
Ah non, bah pas les Panthers, ça c'est sûr.
Voilà, non, on est d'accord.
Ouais, sinon, YOLO, les Commanders à 1,99.
C'est moins YOLO, ça. et les Chargers 1,91, c'est même pas YOLO, ça c'est bien, c'est normal, on aurait dû les mettre. Non mais attends, qu'est-ce que j'avais trouvé qui me plaisait bien? Non, j'ai oublié du coup. Non mais les Cardinals, c'est... Non, tu veux pas. 2,95.
Ouais, ok. On fait perdre les gens là.
Non, on les fait pas perdre, on les fait éventuellement gagner s'il y a un coup du sort.
Ouais.
Non mais c'est pas le but, t'as raison, écoute. Qu'est-ce que tu m'avais dit, toi? Tu m'as dit les...
Sinon, les Commanders à 1,99.
Ça me va. On prend les Commanders. Allez, c'est vendu. Donc là, on a un YOLO. Oh, ouais, bon, c'est, tu vois. Bon, on arrive à un... C'est un petit YOLO, mais très bien. Tu as raison. Parfois, il faut savoir raison garder. Voilà. Donc, en rajoutant les Commanders à 1,99, en rajoutant les Patriots à 2,15 et en rajoutant les Buccaneers à 2,14 dans le premier combiné qu'on avait fait, on se retrouve avec une cote de 74,42. Et donc, pour une mise de départ de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 399,64 euros.
Voilà, très bien.
Presque 400. C'est quand même une très belle somme pour un combiné qui n'est quand même pas simple à rentrer. Et on rappelle encore une fois que de toute façon, tout ce que vous misez doit être fait avec raison et modération. Si vous sentez que vous perdez le contrôle ou le plaisir du jeu, eh bien, faites attention et n'hésitez pas à vous faire aider. Je crois qu'on a fini, Raphaël, on est bon ?
Eh bien, je crois que c'est pas trop mal.
Ouais, bravo. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci, Raphaël, de m'avoir accompagné dans cet épisode de Preview.
Eh bien, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Je pense que les dernières fois, on parlait de nourriture, donc ça change.
on a fait ça. Non, on fait jamais ça. Vous pouvez retrouver, évidemment, cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser tous les commentaires et petites étoiles que vous pourrez. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la NFL sur tdactu.com. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur X, Twitter, sur TikTok et Instagram. Oui, on est sur TikTok. Et bien sûr, tous les résumés, l'actu de la NFL et toutes les chroniques de nos chroniqueurs préférés, c'est sur touchdownactu.com. Demain, vous retrouvez l'équipe draft et d'habitude, je demande à Victor quel est le programme, mais comme il n'est pas là, eh bien, ce sera la surprise pour vous. Et puis, on va se laisser avec un petit jingle de fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.